Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h. Le Super Moscato Show.
Pierre Dorian.
Il est 16h04 sur RMC, le Super Moscato Show avec cet après-midi Denis Charvet. Ça va Denis ?
Oui, c'est impeccable. Écoute, on va parler de rugby, donc ça me va.
Ensuite, tu files au Parc des Princes, 19h, oui, PSG Nantes.
Oui, j'ai payé ma place.
T'as pas trop de place, non ? Tu te rends compte, c'est un événement.
Bon, le mec, il est obligé de le dire.
Non, mais je... Et en plus, je suis obligé de mentir, parce que c'est pas vrai.
Ah bon ?
Moi, j'y ai cru, naïvement. Jérôme Pinault.
Nous, on a aussi cru qu'il allait nous inviter, mais on va croire longtemps.
Tu te rends compte que Jérôme, il monte de Nantes pour venir faire l'émission et Denis lui a même pas prévu un petit PSG Nantes.
Là, je lui en veux parce qu'on aurait pu s'organiser, je l'aurais trouvé des places. Il me l'a pas dit.
C'est vrai. Mais j'ai tellement été déçu du match de dimanche face à Brest où on a été volé par l'arbitrage que.
Ah, toi aussi. Alors le coach dit pareil.
Non, vous auriez pu gagner s'il n'y avait pas un buteur exceptionnel en face.
Ah ouais, problème. Ouais,
oui. Eric Dimeco également avec nous dans le Super Moscato Show. Juste avant de vous donner le programme, on va retourner sur la flèche wallonne puisqu'on arrive aux 15 derniers kilomètres. Il y a toujours un homme en tête, Maria Azé.
Oui, un homme en tête à 15 kilomètres de l'arrivée. Il s'agit du Norvégien Andreas Leknesund. Il n'a plus que 25 secondes d'avance sur le peloton qu'il voit dans son rétroviseur. À noter, petite inquiétude pour Paul Sexa, ce qu'on a vu avec le coude ensanglanté. Alors, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, on ne l'a pas vu à l'image, mais il serait peut-être tombé, Paul Sexa. En tout cas, il a le coude droit bien amoché. En espérant que ça n'ait pas trop de répercussions sur la suite de la course.
Ce qui ne serait pas très étonnant, Maria, parce que lors du dernier passage au mur de Huy, j'ai trouvé que le positionnement de Paul Sexa c'était très mauvais. Il était assez loin dans la file des coureurs. Il s'est fait prendre même sur une tentative de coup de bordure de l'équipe Lidl. Et je ne serais pas étonné qu'il ait eu un souci sur une chute. Il y a de nombreuses chutes depuis tout à l'heure et qu'il soit allé au sol, ce qui expliquerait peut-être son mauvais positionnement.
De toute façon, coup d'ensemble, il n'y a pas beaucoup de possibilités. C'est probablement
Il est allé au sol, ouais, forcément, il est allé au sol. Et on le voit, il n'est pas dans des toutes premières positions du peloton, même s'il a deux équipiers qui se replacent. Il n'est pas super bien placé pour le moment. Alors, j'espère que ça va être juste passager, mais évidemment, quand tu vas au sol et que ça frotte comme ça, t'as un peu peur, t'es un peu plus
sur les
freins.
Du coup, alors attends, 14 km, à quel moment il faut être bien placé ?
Bah, il va falloir être bien placé à 2 km de l'arrivée.
Oui, donc ça va, il n'y a pas le feu.
Ah, il n'y a pas le feu, il n'y a absolument pas le feu.
Et une idée, Maria, du temps qui nous reste avant l'arrivée ?
Je regarde en fonction, hors approximatif, Jérôme, tu me dis si je me trompe, mais on est sur du 16h15-20, quelque chose
très
comme
bien.
Ça.
Très bien.
Ouais, dans un quart d'heure, 20 minutes, à peine une demi-heure, ils sont arrivés.
Un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, c'est pas tout à fait pareil.
Ça va aller plein pot jusqu'au mur de Jérôme, mais après le mur de
Jérôme. Et revoyez les images, c'était marrant parce qu'il m'a dit, regarde, Denis, j'ai attaqué là, il y a quelques années.
En 2011, exactement.
En 2011, là,
j'avais la même position que Leknesund, mais comme lui, je me suis fait bouffer au bout de 100 mètres.
Donc, dans un instant, les derniers kilomètres de la Flèche Wallonne. Alors, au programme, donc, cet après-midi, un débat tabou en rugby. Est-ce qu'on supprime les phases finales? Voilà, tout simplement, pour avoir... C'est une idée qui a émergé lundi dans le Moscato Show, hein, donc pourquoi pas, après
tout. Oui, c'est pas la première fois
C'est pas la première fois, tout à fait. Et puis, l'OM à 17h, avec l'interview exclusive de Facundo Medina. Croyez-vous à la révolte des joueurs? Les joueurs, en tout cas, sortent de leur réserve par la voix de Medina au micro de Florent Germain, et vous l'entendrez donc à 17h dans le Super Moscato Show sur RMC. Et je vous rappelle qu'il y a des très beaux cadeaux cette semaine. D'abord, dans le Kikadi, c'est une semaine de vacances dans un camping Tikayan. Ce sont des campings de grande qualité et en plus, vous choisissez camping zen, voilà, pour vous relaxer et découvrir des endroits du sud de la France.
Sans les gosses.
Ou alors camping club, où là, c'est avec très bien enfants. Avec des enfants, et notamment avec des parcs aquatiques, toboggans et animations gratuites. Kikadi par SMS au 7-32-16. Et bien sûr, l'alerte Ligue des Champions qui peut tomber à tout moment pour vous offrir l'expérience RMC pour la demi-finale aller de Ligue des Champions entre Paris et le Bayern Munich. Donc dès que ça retentit, vous avez 5 minutes pour vous inscrire. Tout de suite, le top 14, c'est avant tout l'expertise des consultants.
Samedi à 17h sur RMC.
Venez, on va voir un petit peu, on va voir qui va gagner l'épreuve de force.
C'est Intégral Rugby avec Yann Delay.
La passe de
Niachvili.
Les 4 matchs du multiplex de top 14.
C'était trop peu face à ce Stade Toulousain.
Il avance, mais fouille.
Sacha Feinberg, Mgo Melozulu.
Sacha Liberk, Mgenzelou.
Sur Marvin O'Connor, et puis O'Connor, et puis.
S'entend direct et en intégralité sur RMC.
Il avait fait un truc extraordinaire, il avait dit à tous les joueurs, mettez tous les noms de vos amis sur le maillot. Il y a un joueur qui n'avait pas d'amis, il a mis que son nom.
Numéro 1 sur le sport.
le rugby, c'est un sport, c'est un sport, c'est un spectacle.
Donc celle-ci particulièrement, je pense
que je rassure tout le monde, c'est pas moi, hein, c'est mon frère.
Tu sais que ce que je préfère,
c'est Laurent Girard
dans cette première entente, c'est le stade toulousain de Marc Yévremont.
Marvin au connard,
oui, un grand connard, classique. Ouais. Donc aujourd'hui, on évoque un sujet tabou dans le rugby. Est-ce qu'on peut toucher aux phases finales? Alors pourquoi en parler aujourd'hui? D'abord parce que le rugby ne règle pas ses problèmes de calendrier. Alors ça, c'est récurrent. Et puis cette saison, il y a eu pas mal d'impasses, hein, lors des affiches de la saison régulière en top 14. Le problème, c'est que les phases finales, c'est le patrimoine du rugby français. C'est une institution, c'est l'histoire. On peut difficilement y toucher, mais on ouvre le dossier quand même parce que il y en a marre de ces affiches du dimanche soir galvaudées. Donc est-ce qu'on peut les supprimer? Le Moscato Show va régler ce problème. 32-16 pour débattre avec nous, supporters du top 14. Il y a également, je vous rappelle, hashtag RMC Live sur Twitter ou alors WhatsApp 06 12 424 424. Nous allons écouter le Parisien Romain Briat. Ensuite, je vous donnerai la position officielle de la Ligue Nationale de Rugby. Mais d'abord, on refait le point sur la Flèche Wallonne avec Maria Azé.
Maria. 9 kilomètres, 7 de l'arrivée. On se rapproche de plus en plus, hein, de cette dernière ascension du mur de 8. Paul Sexas est bien là. Il est avec deux coéquipiers bien entourés. Paul Sexas très bien placé pour aborder l'ascension de cette dernière difficulté, la côte de Chérave. Tout va bien pour Paul Sexas en tout cas. Il n'a pas l'air trop impacté par sa chute. Les autres Français sont bien là aussi. Kevin Vauclin, Romain Grégoire, bien placé aussi à l'avant de ce peloton arrivé dans 9 kilomètres, trois messieurs.
Alors, peut-on toucher aux phases finales en rugby? D'abord, l'avis d'un joueur, Romain Briat, au Stade Français.
C'est pas de mon ressort, il y a beaucoup de matchs, ça amène beaucoup d'excitation aussi, ça permet de voyager, d'aller dans de nombreuses villes, ça me dérange pas. Après, moi, l'avis que j'ai, c'est que les saisons sont de plus en plus dures, les intensités également, les meilleurs joueurs du monde qui veulent jouer dans ce championnat, zéro équipe qui fait jouer les 22 mêmes joueurs ou les 15 mêmes joueurs, d'un week-end à l'autre, il y a toujours des rotations, des permutations.
Alors voilà pour Romain Briat. La position de la Ligue qu'on a sollicitée aujourd'hui nous dit: il n'y a aucune réflexion en ce sens actuellement. Le format du championnat avec phase finale est consolidé. On pense que c'est la meilleure solution d'un point de vue sportif et économique. On a des réformes en revanche, hein, quand même, de salary cap en cours, qui visent à essayer d'élargir les effectifs des clubs pour que les coachs puissent mieux gérer leurs effectifs, mieux protéger les joueurs et qu'il y ait un roulement plus facile à faire.
Élargir les effectifs, il faut de l'argent. C'est pas que le salary cap qui l'empêche.
Augmenter le salary cap te permet quand même d'avoir au moins plus de marge de manœuvre.
Si t'as l'argent, mais bon.
Si t'as l'argent, évidemment.
Ce qui est quand même le cœur du problème.
Oui, si c'est l'argent, mais pour
plein de clubs. Plein de clubs sont dans le rouge à cause de c'est pas que le salary cap, attention. Hein.
Et l'élargissement de la saison dépend aussi des finances, parce que si tu fais une saison régulière avec un championnat qui doit durer, si on veut s'y retrouver financièrement, il faut qu'il y ait un championnat à 18.
Ou à 16.
Et t'as pas deux équipes, on le voit. Oui. Les équipes qui montent de Pro D2, elles se font marcher dessus.
Non, mais c'est pas possible aujourd'hui, tu peux pas revenir en arrière. C'est aujourd'hui.
D'ailleurs, on parle même d'un
top 12, donc si tu veux.
Ouais, mais donc à top 12, t'es obligé de faire des phases finales. Sinon, en février.
C'est tellement une fête chaque année, les demi-finales. Moi, j'ai la chance de les commenter chaque année. Cette année, ça va être à Marseille, ça va être une fête incroyable au stade Vélodrome. C'est sacré, oui, c'est sacré. Alors, c'est vrai, je comprends.
C'est tellement sacré que l'OM perd toutes les compétitions assez rapidement pour laisser la place au stade.
c'est à Marseille cette année.
Je comprends la problématique, c'est vrai que pour les joueurs, c'est pour la santé des joueurs. Donc, effectivement.
Non, mais c'est aussi pour l'intérêt du championnat.
L'intérêt, moi, je suis pas d'accord.
Moi, je suis de la vieille
génération. Donc, pour moi, c'est pas possible de pas faire des phases finales. Pour moi, c'est impossible. Parce qu'en premier, c'est la culture du foot, c'est pas la culture du rugby d'abord. Et puis, faire un premier toute une saison et tout.
Oui, un premier champion, serait trop simple, quoi.
Et ça, tous les champions chaque année. Imagine. Non, mais surtout,
le deuxième jouer, Pierrot, il serait obligé de faire jouer les grosses équipes. Il serait embêté, du coup.
Non, mais ça serait comme le PSG. Stade Toulousain serait champion de France tous les ans.
Ouais, ou trois fois sur quatre.
Mais c'est déjà le cas. Ou 9 fois sur 10.
C'est déjà le cas. Donc, là, il faut que.
Non, mais tu refais des matchs de plus.
Là, tu viens de dire une connerie.
Non, pas de conneries, parce que parfois, il y en a un qui le gagne. Regarde le PSG.
Comme il y aura une, fois de temps en temps.
Pas beaucoup.
Par contre, je pense que la problématique, elle est aussi surtout, attention, je vais prendre une balle, que c'est un sport très régional de spécialistes.
Pas du tout.
Et si, et que quand tu veux lire sur l'ensemble de la saison, quand tu tombes à une certaine période de saison et que tu vois grandes affiches, si t'es pas un grand connaisseur et que tu comprends pas cette nécessité peut-être de pas aligner à chaque fois les meilleurs joueurs, je suis désolé, il est arrivé dans l'année.
Non mais toi tu parles de la visibilité, mais c'est pas la même chose.
Alors
là,
pas de la visibilité, de la lisibilité. Et je te disais,
visibilité.
Par exemple, le week-end dernier, La Rochelle contre l'UBB. Si tu dis putain, il y a un super match de rugby, je regarde ça. C'est une affiche. Il y a qu'une équipe sur le terrain parce qu'il laisse passer et parce qu'ils font l'impasse sur ce match. Cette façon de faire le championnat et de créer ce championnat top 14 avec ses phases finales qui sont évidemment excitantes et c'est évidemment comme ça qu'il faut garder.
Mais
il y a certaines personnes qui s'y retrouvent pas.
C'est clair que non, mais il y a pas de temps. Regarde, le dimanche soir, t'as deux matchs en concurrence, l'affiche du top 14, l'affiche de Ligue 1. Alors certes, j'aime beaucoup le foot, mais moi je préfère regarder un OM Brest, par exemple, un La Rochelle Toulouse. Parce que je sais que je vais avoir plus d'incertitudes en fin de compte sur un Marseille-Brest.
On a eu ce débat dans d'autres émissions et à chaque fois on se dit la même chose, que c'est pour faire venir un nouveau public et quelqu'un qui a envie d'y arriver et qui serait là à s'il y a une belle affiche, il accroche. C'est quand même décevant. Tu invites des gens à venir voir un match au stade. Il y a l'ambiance.
Non, mais là, l'ambiance rugby est tout dans de l'année. C'est pas la même chose. Le débat, c'est est-ce que c'est les playoffs sont sacrés. C'est pas la même chose parce que les playoffs, t'as les meilleures équipes, t'as les quatre meilleures équipes qui se retrouvent. Et l'enjeu
après, c'est vrai que les matchs sont extraordinaires.
J'allais dire justement la qualité des matchs est extraordinaire.
Et nous on fait l'impasse sur l'ensemble des matchs régulières pour aller voir des beaux matchs.
Encore une fois, c'est un autre débat. Bon, moi, c'est deux débats différents. C'est vrai que le débat de l'affiche dimanche soir, on en a parlé avant-hier. Moi, j'étais un peu offusqué par rapport au rendu du Racing Stade Français. On m'a expliqué qu'il y avait beaucoup de blessés au Stade Français, donc j'ai.
Mais ce qui est vrai aussi.
Ce qui est vrai, donc c'est vrai que.
Parce qu'en fait aussi, une des raisons pour lesquelles les clubs font tourner,
oui.
C'est que parfois
cette sensibilité qu'on n'a pas nous, Denis, par rapport à toi qui as joué. C'est aussi le côté très physique de ce sport qui nécessite. C'est même pas mieux qu'il souffre, c'est nécessaire.
Il nécessite surtout des effectifs aujourd'hui de 50 joueurs, enfin 45-50 joueurs.
Ce qu'a le Stade Toulousain.
Après le fait que ce soit le Stade Toulousain qui gagne, de toute façon, en général, même si c'est une saison non régulière et qu'il y a des finales. C'est toujours le plus riche qui gagne, en général.
Alors, avant l'avis d'Éric, on retourne sur la Flèche Wallonne. Il reste 6 km et c'est regroupé. Il n'y a plus d'hommes devant, Maria Azé. Hein.
Non, le dernier rescapé de l'échappée du jour, Andreas Leknessoun, vient de se faire reprendre. On est à 5,7 km de l'arrivée. Ça y est, on arrive au sommet de la côte de Chérave. On vient de le passer, dernière difficulté. On va entamer la descente. Un replat et ce sera ensuite la dernière ascension, l'ascension finale, la dernière ascension du mur de Huy. La Décathlon CMA CGM de Paul Sexas qui fait du gros boulot, hein, Jérôme, qui protège très très bien son leader pour l'instant. Attention au placement au début de ce mur de Huy, ça va être très très important pour l'instant. Peloton groupé à 5,4 km de l'arrivée.
Le plan était d'être 3 coureurs plus Paul Sexas au pied. Le plan est respecté à la lettre.
C'est nerveux là, dans le peloton là.
Ouais, là c'est très nerveux. Puis il y a cette longue route qui va amener jusqu'au pied du mur avec le long de la Meuse et c'est souvent là où tu peux te faire déborder. C'est là où l'équipe Décathlon va devoir sacrifier 2 des 4. Mais c'est prévu comme ça. Il est prévu qu'il n'y ait plus que Paul Lapeyra avec Paul Sexas au pied du mur de Huy.
Alors peut-on toucher aux phases finales en rugby, Eric Dimeco?
Alors écoute, débat annuel dans le Moscato Show, puisque c'est quand même un débat qu'on a souvent, parce que nous on comprend pas, alors moi avec ma culture au foot bien sûr, donc on a très bien compris, et j'avoue que moi aussi, quand on fait notre petite vadrouille là chaque année, pour finir dans la ville des demi-finales, on se régale, on boit des coups, on va voir les matchs,
on fait les cons,
mais moi tu peux pas savoir, comme je suis content qu'il soit à Marseille, ils vont venir manger les pizzas, on va se régaler.
Pour les commerçants,
j'espère que tu vas venir goûter la
pizza. Tu peux faire double les prix pour les, parce que le public rugby comment, c'est un peu plus, il y a un peu plus d'oseille que foot.
Mais Pierrot, pour avancer dans ce débat, parce que moi pour moi Alors, il faut juste attendre que la génération des Denis, là, Denis, ouais, c'est les derniers, qu'ils cassent leur, voilà. Non, on va attendre qu'ils cassent leur pipe, parce que c'est eux qui nous ennuient, tu vois, parce que toutes ces vieilles choses-là qui passent qu'à faire la fête, à boire des coups, parce que moi, je les ai vus la dernière fois qu'ils sont venus à Marseille, le matin, à 8h sur le vieux port, avec son ami Olivier Marchal, à boire, ils étaient pas au café, ils étaient pas, non, comment tu étais pas, je suis venu te rejoindre, moi, le matin, ils étaient pas au café le matin à 8h du matin. Non, c'était pas midi, c'était 8h du
midi
matin.
Midi moins 3.
Je vous ai vu avec les chopines à 8h du matin. Donc, on va attendre que toute cette génération casse sa pipe. Et c'est le sens de l'histoire.
Oui, bien sûr.
C'est le sens de l'histoire. À un moment donné, ils vont être obligés de faire un championnat, comme le championnat de foot, avec le premier qui sera champion de France, avec des matchs du dimanche soir entre le premier et le second, où il y a les meilleures équipes, parce que si tu perds, eh bien, tu as perdu le titre. Alors, ce sera peut-être dans 50 ans. Peut-être qu'il en faudra encore deux générations derrière qui cassent leur pipe. Mais tu verras qu'ils vont y arriver. Parce que là, ils sont
très est-ce que ça sera mieux? Je suis pas sûr.
Mais je dis pas que. Peut-être que ce sera obligé parce que le couillon qui paye, là. Parce que et je le dis avec grande sympathie parce que Canal+, j'aimerais bien qu'ils continuent à payer pour le foot. On les a tellement maltraités que, du coup, on a même plus de diffuseurs, nous. Mais faites attention, vous aussi, de pas maltraiter votre grand argentier. Parce que Canal+, ça, c'est votre grand argentier.
T'as raison.
Voilà. Donc, non,
de toute façon, la situation ne changera que par là.
Oui, voilà.
C'est le jour où Canal en a marre que ça changera.
Et ce qui s'est passé ce week-end, pour moi, n'est pas à donner. Pierrot l'a bien noté, et dans les commentaires, c'est vrai que c'était très rare quand Canal+, se montrait agacé par le match du dimanche soir, par les compos et par la qualité du match du dimanche soir. Là, ça commence un peu à couiner. Et je vais te dire qu'à un moment donné, quand tu donnes 140 millions pour voir une course de pur sang, et que tu vois, non, mais je vais pas faire ça va pas être gentil ce que je vais faire, je vais pas faire le parallèle avec les chevaux de course. On va prendre un autre parallèle.
Ah bon?
Parce que j'allais dire des ânes, j'allais dire les chevaux de course, les ânes.
Oui, ça te gêne pas d'habitude.
Mais moi j'aime insulter les vieux. J'aime insulter, me moquer des vieux grigous, des vieux grigous. Voilà, des vieux grigous, mais les jeunes, je les respecte quand même. Donc, non, mais tout ça pour dire que, à un moment donné, et ils commencent à s'agacer, ça va venir par là. Quand un jour ils vont arriver, Canal+, à la Ligue, ils vont leur dire, bon, mais les gars, vous savez quoi, vous nous filez des matchs de deuxième division, eh ben, on va vous payer des droits télé de deuxième division. Voilà. Et alors, c'est sûr que, je suis pas sûr que alors, ce soit attends, mieux, Denis.
Si ça,
je
veux bien comprendre. Ton raisonnement est très logique, Eric, je veux pas te contredire, mais est-ce que toi, en tant qu'amateur de sport, t'auras pas quand même un manque s'il n'y avait plus de demi-finale et finale
du
top 14.
Non, moi je suis pas. Ah non, alors moi, autant ça me fait plaisir quand nous on va sur les rassemblements de demi-finale, on se régale. Moi je comprends tout ça, hein, et que les mecs en plus, c'est la bonne excuse, ils se cassent tous de la maison, ils laissent leur femme à la maison pendant 3 jours pour aller voir du rugby, c'est le prétexte à faire les cons en plus, les supporters de tout le monde est content.
Mais c'est une fête, je suis désolé, mais
sauf que pour te répondre, Pierrot.
La finale parce que, du top 14, c'est quand même un grand moment.
Parce que, oui, non, mais la finale, c'est. Ah ouais, la finale, ouais, il y a la finale. Ouais, ben, faites-le Coupe de France.
Tu peux créer une saison régulière avec une finale.
Faites-le Coupe de France. Faites-le Coupe de France.
Juste les deux premiers qualifiés pour la finale, pourquoi pas. Maria Azé, on arrive dans la dernière ascension du mur de Huy sur la Flèche Wallonne.
Oui, on vient d'entrer dans ce mur de Huy. On est même à 850 mètres de l'arrivée. La première partie du mur de Huy n'est pas forcément la plus difficile. On va arriver dans quelques instants dans les pourcentages les plus difficiles. Paul Sexas est bien là. Il a dû faire un petit effort pour remonter parce que la groupe Ama FDJ avait pris les devants, avait bien accéléré pour Romain Grégoire. Mais Paul Sexas a fait l'effort. Il est bien remonté à l'avant. Tous les favoris sont là. Paul Sexas, Romain Grégoire, Lenny Martinez, Benoît Cosnefroy. Je ne vois pas Kevin Vauclin qui n'est pas très bien placé. Jérôme, Kevin Vauclin dans ce mur de Huy. Paul Sexas est aux avant-postes, très clairement. On va avoir ce fameux virage Claudie Criquer-Lyon et ses pourcentages à plus de 20%. Et puis après, on arrivera dans le dernier segment, là où Pogacar avait attaqué l'année dernière. C'est aussi le plan de Paul Sexas. Si on en croit ses directeurs sportifs, il va arriver dans quelques instants. On est à 600 mètres de l'arrivée. Jérôme, évidemment, c'est pas facile à monter ce mur de 8, ça va pas très très vite, mais Paul Sexas, il semble en forme en tout cas, Jérôme.
Oui, il est en tout cas dans la meilleure des positions. Maintenant, on va voir s'il a la force pour faire ce qu'avait fait Poggi, c'est-à-dire dans le passage le plus difficile à accélérer. Il est très très bien placé, il monte à 6 et on a l'impression qu'il a de la réserve.
Après, ça attaque à combien de l'arrivée?
À 400 mètres.
600 mètres, entre 350 hein, 600 mètres, 400, ça devrait attaquer. Voilà, on est dans le virage. On vient de passer le virage, Claudie Criquet-Lyon et Paul Sexas qui essaie d'accélérer. C'est dur. C'est dur pour Paul Sexas. On est à 450 mètres de l'arrivée. Ouh, il est en train de couvrir. En tout cas, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à faire la différence. Il se dresse sur ses pédales. Paul Sexas. Oh, c'est dur pour le Français. C'est dur dans les pourcentages les plus difficiles de ce mur de 8. Des pourcentages à 20%. Ça semble compliqué. Il n'arrive pas à faire la différence, Paul Sexas. En tout cas, il est aux avant-postes. Hein. Il est devant. Il a quelques. Voilà, il mène vraiment ce peloton, mais il n'arrive pas pour l'instant à faire la différence. Benoît Cosnefroy. Eh bien là, un Visma Lease Bike aussi. Jérôme, je ne sais pas qui est le Visma Lease Bike.
C'est Steven Kruiswijk. Steven Kruiswijk, l'ancien, hein, le senior de cette équipe, qui est là, qui s'accroche bien dans la roue de Paul Sexas,
mais qui va par à coup. Il va par à coup, Paul Sexas. Il accélère, Paul Sexas, ça y est, Paul Sexas a fait la différence. Paul Sexas, ça s'est accéléré, il part tout seul, il est parti tout seul à 200 mètres de l'arrivée. On pensait qu'il allait attaquer un peu avant. Il résiste, Paul Sexas, il accélère, il a quelques dizaines de mètres d'avance sur la Visma Lease Bike, sur Benoît Cosnefroy et Paul Sexas qui va réussir à s'imposer normalement au sommet du mur de 8. Il grimace, Paul Sexas, c'est dur cet effort, mais Paul Sexas va s'imposer. C'est le vainqueur le plus jeune de l'histoire de la Flèche Wallonne. Victoire de Paul Sexas en patron. Il a attaqué à 200 mètres de l'arrivée et il a gagné. Paul Sexas, il envoie un gros message à ses adversaires de dimanche, Tadej Pogacar et Remco Evenepoel. Il sera là, Paul Sexas, et il a encore une fois montré qu'il était le plus fort aujourd'hui. Paul Sexas, vainqueur de la Flèche Wallonne.
Magnifique. Alors bravo, là, très belle arrivée.
Bravo Maria, magnifique. Ouais. C'est régalé. Je me le sens ce mur de 8, moi, l'année prochaine. On le fait.
On le fait.
Tu amènes des mecs là. Amène-nous là-haut, là. On s'entraîne pendant un an.
Il y a un plan. Alors, si vous avez suivi ça devant votre télé, les plans de face, ça écrase la pente. Et puis, à un moment, dans le virage, en fait, tu les vois de côté.
Oui, tu le vois, c'est impressionnant.
Les maisons. C'est monstrueux. Les maisons qui font 4 à 5 mètres de large.
Entraîne-toi, moi, le faire.
Dans la montée, tu es sur le toit et deux pas après, tu es au pied de la pente.
En fait, il l'a géré comme il l'a voulu.
Il est le plus fort.
Non, mais ce qui est génial, c'est qu'il gagne dans la souffrance. C'est-à-dire que même quand il souffre, il est le plus fort.
Tu ne peux pas gagner la Flèche Wallonne sans te donner à 100%. L'année dernière, Tadej Pogacar l'année dernière n'a pas pu gagner sans se faire mal. Ce qui est juste impressionnant, c'est que il a utilisé ses qualités qui sont celles de la résistance et il a plié tout le monde. Encore une fois, il a pris ses responsabilités.
Parce qu'il
a fait rouler son équipe.
Parce qu'il est plus fort,
il a plié les mecs les uns après les autres. C'est juste impressionnant. Maria l'a dit dans le commentaire. C'est le plus jeune vainqueur de la Flèche Wallonne de l'histoire du cyclisme, de l'histoire de cette course. Faut se rendre compte que là, ce qu'il vient de faire, il vient de poser un drapeau. C'est le mur de 8 est à lui. Et maintenant, rendez-vous dans 4 jours à Liège-Bastogne-Liège. Il vient de prouver qu'il rentre dans cette galaxie de coureurs qui sont intouchables quand ils sont le grand favori au départ. Maintenant, les très grands sont là.
Jérôme, en fait, le profil de l'arrivée n'est pas forcément fait pour lui. C'est pas là où il s'exprime le mieux. Ce qui veut dire qu'il est vraiment ultra costaud.
Évidemment.
Dans des conditions qui ne sont pas idéales, c'est un vrai enseignement.
C'est ce qu'il a fait en prenant la tête dans ce virage. C'est-à-dire qu'il a accélérer une première fois dans le virage pour mettre tout le monde à l'agonie, même les punchers qui... Le punch, c'est bien, mais il faut être capable de le mettre quand t'es dans la roue du mec. Parce que si t'es à l'agonie dans la roue du mec, tu peux pas. Et Paul, il avait ces qualités-là. Il a imprimé un tempo très fort et il n'a fait qu'accélérer jusqu'en haut. C'est sûr que c'est pas du punch à la Philippe sur les 300 derniers mètres, mais c'est tellement plus fort.
Seul Evenepoel aurait pu le suivre.
Et Poggi.
Poggi, oui, bien sûr, mais je veux dire, Evenepoel,
pas sûr.
Evenepoel, attention.
Donc, victoire de Paul Sexas sur la Flèche Wallonne qu'on vient de vivre en direct, et puis on aura probablement sa réaction avant 18h dans le Super Moscato Show sur RMC, et puis un autre phénomène du sport français, Victor Wembanyama dans le Moscazap dans un instant. C'est le Super Moscato Show. Vous êtes sur RMC, et Paul Sexas, donc, vient de remporter la Flèche Wallonne.
RMC jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Pierre Dorian.
Le Super Moscato Show sur RMC, 16h32 cet après-midi. On vient de vivre un super moment de sport en direct, puisque Paul Sexas a remporté la Flèche Wallonne en direct sur RMC là il y a quelques minutes, dans un finish disputé. C'est aussi pour ça qu'on s'est régalé. On vit ça avec Denis Charvet, Eric Dimeco, Jérôme Pinault. C'est quand il y a de l'adversité que c'est le plus intéressant, évidemment. Ça n'a pas été facile pour Paul. Hein.
Non, il s'est arraché. On a derrière des coureurs, c'est Ben Tulette. Hein. Je me suis trompé. C'était pas Steven Kruiswijk, mais bien Ben Tulette, l'anglais de l'équipe Visma. Deuxième, il s'est arraché. Paul Sexas, on l'a vu après l'arrivée, en plus blessé. Mais en fait, il a accéléré avec ses qualités à lui et il a mis tout le monde à l'agonie jusque dans les derniers mètres où ils ont fini par plier. C'est là où gagner sur un terrain qui n'est pas forcément là où il a le plus de qualité, même si cette montée, elle est incroyable. Je serais curieux d'avoir le temps de la montée. Il ne doit pas être loin des montées ultra rapides. C'est juste phénoménal. Il a 19 ans et demi. Il commence sa première année chez les professionnels. Il a déjà gagné 5 courses World Tour, dont le Tour du Pays Basque, qui est très réputé, et maintenant la Flèche Wallonne.
J'ai pas voulu te couper pendant le direct, mais Tulette, je l'avais vu, moi, qui était souvent. Ah ouais,
tu sais ouais. Pourquoi? Parce que comme il a parié tout l'après-midi sur la course, il savait qu'il était en top, Denis. Dans une demi-heure, l'Olympique de Marseille, avec l'interview exclusive de Facundo Medina. Croyez-vous à une révolte des joueurs? Mais tout de suite, on part en NBA. Sur RMC.
RMC, le Mosca.
Alors, l'image de la nuit, c'est la frayeur pour Victor Wembanyama, victime d'une commotion cérébrale avec les Spurs la nuit dernière. Sa tête a heurté le parquet lors du deuxième match du premier tour des playoffs face à Portland. On va en parler avec Maxime Tilliette. Salut Maxime.
Salut Pierrot, salut le
SFC. Salut Maxime.
Il est là.
Parce que cette commotion peut avoir de grosses conséquences sur la post-season. Parce que qu'on s'y connaisse ou pas en basket, il faut parler en américain, Eric. Sinon, tu passes pour un blaireau.
Ça, c'est une des choses qu'ont aussi les basketteurs chez nous. Hein, c'est que dès qu'il y a un petit mot, on peut placer en américain.
Les mecs, ils ont joué à Cholet, à Villeurbanne.
Ils sont allés à l'école jusqu'à 5e quand ils veulent nous faire.
Est-ce qu'il y a une version américaine de basket time?
Évidemment, mais c'est moins bien.
C'est moi, bien, évidemment. Parce que moi et Eric, on voulait celle-là.
Victor risque de manquer les prochains matchs de play-off. Et en plus, San Antonio a perdu la nuit dernière. Ouais. Ce qui veut dire qu'il y a un partout et qu'on joue tous les deux jours. Est-ce qu'on a déjà une idée de la durée de l'absence de Wemby?
Bah, c'est bien ça le problème. Pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose. L'une des seules choses qu'on sait, c'est que Wemby doit se reposer 48 heures. C'est la règle en NBA en matière de protocole commotion. Il va passer des examens neurologiques et un point sera fait vendredi pour savoir s'il pourra jouer le soir même et aider les Spurs à reprendre l'avantage du terrain qu'ils ont donc perdu la nuit dernière. Ce sont le médecin en chef des Spurs et surtout le responsable du protocole commotion cérébrale de la NBA qui devront trancher. Mais en moyenne, depuis 1999, les joueurs NBA victime de commotion cérébrale s'absente un peu plus de 7 jours. Donc, dans ce cas-là, Wemby manquerait les 3 prochains matchs et ce serait un énorme coup dur pour San Antonio dans cette série de playoffs.
Ouais, puisqu'on joue vendredi, on joue dimanche et mardi.
Mais c'est très rare des commotions quand même au basket. On n'en voit pas souvent.
Hein. Ça arrive, il y a un protocole commotion NBA.
En plus, comme il fait des chocs,
tombe de haut. Hein.
Puis comme il se le fait, c'est incroyable. Il se casse la gueule et.
Il tombe peut-être la première.
La force, la puissance des mecs et heurter le sol. Comme il a fait.
Il tombe de 2m20, lui. Hein.
Bah, c'est ça, il tombe de haut. C'est préjudiciable pour les Spurs qui ont perdu en plus chez eux, donc perdu davantage du terrain.
Sans lui, c'est plus la même.
Sans lui, c'est plus la même équipe. 7 jours, ça va être très long. Hein.
Alors, ce qui est un peu inquiétant, c'est que sans lui, ils ont gagné des matchs de saison régulière. Sauf que là, celui-là, ils l'ont perdu.
Oui, mais là, c'est les playoffs, mais c'est les playoffs, c'est plus le même jeu en playoff. Mais moi, je te parie qu'il va être là sur le prochain match, sur le terrain.
Le problème, c'est que c'est pas lui qui décide. Hein. Là, il y a,
protocole.
Si on lui dit arrête 7 jours, c'est arrête 7 jours. Oui. Il n'y aura pas de négociation. Hein.
Mais comment il était, parce qu'on l'a vu, comment il était après le
Sur le moment,
il a un peu titubé. Il a un peu titubé sur le moment, mais il a regagné les vestiaires en courant, en trottinant, sans doute pour montrer que ça allait. Mais apparemment, les échos étaient pas très bons derrière, puisqu'il n'a pas pu reprendre.
Non, mais en plus, comme tu le dis, Pierrot, là, il y a un protocole NBA. Je veux dire, ils vont pas rigoler. Hein. S'il lui dit c'est 7 jours à la maison, tu négocies pas, c'est
le rugby,
choisis un doigt,
c'est la plus grande
star, là. Oui, mais quand même.
Je suis d'accord avec Eric. Moi, je pense qu'il sera sur
3-3, il va dire ça fait 5.
Non, 3-3, ça fait 7, et puis voilà.
Après, il pourra peut-être faire les finales du top 14, mais pas NBA.
Bon, et puis Maxime, il y a deux autres petites infos au rugby. Alors, je dis petite, c'est pas si petit que ça, mais c'est vrai que la NBA et Wembanyama prennent beaucoup de place. C'est l'Euroleague. Monaco a perdu la première occasion de se qualifier en play-off en perdant contre le Panathinaikos, mais c'est plutôt logique au vu des résultats de la saison. Et donc, il y aura une deuxième chance vendredi à 19h30.
Exactement, à 19h30 à domicile, et ça joue beaucoup aussi dans ces matchs couperés, hein. Là c'est victoire ou fin de saison en Euroleague pour l'AS Monaco Basket face à Barcelone que les Monégasques ont battu le 10 avril dernier, et face à une équipe de Barcelone mais aussi que les Monégasques avaient éliminé la saison dernière en play-off. Donc voilà, mentalement ils ont ce petit ascendant psychologique. Après voilà, on sait que c'est sur un match sec, tout peut se passer, et que les Barcelonais auront évidemment très envie eux aussi de rejoindre les play-offs, surtout qu'à Monaco il y a toujours une infirmerie bien remplie.
Et puis on a appris aujourd'hui que la Coupe du Monde 2031 de basket aura lieu en France, ce qui sera une grande première. Hein. Oui, c'est bien.
Ah ouais, c'est génial. En 2031, réparti entre Lille, Lyon et Paris, parce qu'en plus ces dernières années, la France s'est dotée de pas mal de salles et d'arènes de très grande classe, ce qui permet donc d'accueillir pour la première fois de l'histoire, en effet, une Coupe du Monde de basket, avec pourquoi pas d'ici là une génération Wembanyama qui permettra d'aller chercher l'or.
Alors c'est vrai que 2031, donc il aura 26, je crois. Ce sera une occasion rêvée de voir Wembanyama pour le public français. Hein. On l'a vu au JO, il était jeune. Et puis je pense que peu de monde ont eu des places, peu de gens ont eu des places, peu de Français. Là, ce sera une vraie occasion.
Les moyens de Denis, par exemple, tu vois.
Mais non, mais parce que t'as une demande internationale quand même sur ces compétitions-là. Oui. Là, je pense qu'il y aura beaucoup le public français quand même. Hein. On zappe le basket. On va parler du FC Nantes. Ah, voilà. Oui. L'autre club cher au cœur de Jérôme Pinault, puisqu'à 19h, il y a ce match reporté de la 26e journée entre le PSG et Nantes. Alors, avant de parler de Nantes, Luis Enrique pourrait relancer Lucas Chevalier soit ce soir, soit ce week-end à Angers. Et selon les infos RMC Sport, ça pourrait même permettre à Lucas Chevalier, s'il rejoint un peu en cette fin de saison, d'aller à la Coupe du Monde, puisque Didier Deschamps ne serait pas fermé à l'emmener s'il rejoue un peu. Sachant, vous savez depuis quand il n'a pas joué Lucas Chevalier? Son dernier match, c'était 23 janvier.
Ouais, ça doit faire, ouais.
Ça va vite quand même. Hein.
Ça pique. Hein.
Tu peux pas aller à la Coupe du Monde en ayant raté 5 mois de compète quand même, non? Ça semble difficile.
Ouais, c'est compliqué. J'ai l'impression, après, tu es troisième gardien, donc est-ce qu'il va pas faire le choix, Didier, de prendre quelqu'un qu'il connaît, qui peut être le gardien de l'avenir, entre guillemets? Je sais pas. J'avoue que j'ai pas d'idée sur ça. Je sais pas comment il peut jouer.
Ce qui est difficile à faire pour lui, c'est que déjà, dans ce groupe, il se sent pas très à l'aise, il le joue pas. Et je pense que c'est pas non plus le caractère d'un mec qui va s'intégrer facilement et pour ne plus être au contact du groupe. Est-ce que, dans le groupe France, il est plus intégré que ça? Est-ce qu'on a besoin de lui? Parce que souvent, le troisième gardien, Eric, c'est quand même aussi souvent, alors soit quelqu'un qui fait pas de bruit, soit quelqu'un qui met un peu l'ambiance et qui soude le groupe.
Oui, c'est ça, ouais. Ouais, normalement, ouais. C'est ça, dans ce sens-là, ouais.
Après, a priori, le troisième gardien joue pas.
Peut-être même c'est aussi dans l'avenir. Sébastien, troisième gardien, non?
Ah, bah, écoute.
Pour l'ambiance.
Alors, on va parler de Nantes aussi. Parce que Nantes, qui est 17e de Ligue 1, a plus beaucoup d'espoir de se maintenir depuis le match nul dans les arrêts de jeu à la 96e, hein, contre Brest.
Scandaleux.
Mais franchement, alors, scandaleux. Je vous laisserai
c'est
en
mon,
parler.
C'est mon avis.
Mais c'est quand même, le scénario est abominable. C'est-à-dire que Nantes mène 1-0. Nantes prend un carton rouge à la 65e minute pour une action qui est litigieuse. C'est-à-dire que d'abord, bon, la faute est pas énorme et c'est l'intention d'annihiler une action, occasion manifeste de but. Bon, qui est pas manifeste pour tout le monde. OK. Donc l'arbitre finit par sortir le rouge alors que dans un premier temps, il sort le jaune et que c'est l'assistant VAR qui lui demande d'aller voir l'action. Dans son rapport complémentaire, il indique que finalement, il faut requalifier le carton rouge en carton jaune. Donc, il se dédie, malgré le visionnage des images pendant le match. La commission de discipline de la Ligue l'a suivi. C'est-à-dire que le carton rouge de Tabibou est requalifié en carton jaune. Oui, Vahid Elilhodzic, qui s'est fait expulser de colère parce que lui, évidemment, estime que l'expulsion n'est pas justifiée, est passé en commission de discipline, a pris 4 matchs. C'est-à-dire que ça le prive de presque tous les matchs jusqu'à la fin de saison. Il reviendra pour Nantes-Toulouse. Ce sera peut-être déjà trop tard pour les Nantais. Écoutez, Vahid sur cette séquence incroyable pour le FC Nantes.
Vous voyez, ça se passait beaucoup de choses dernièrement. Après le match, j'ai entendu, j'ai vu le rapport. L'arbitre a avoué qu'il s'est trompé. Ah ben il faut le féliciter, mais ils n'ont pas dit qu'ils ont volé notre victoire aussi. Et j'ai vu dans le journal L'Équipe, le jour, ils demandent 5 mois de suspension pour Vahid parce que j'ai demandé que l'arbitre m'explique parce que je n'ai pas compris. Surtout après le visionnage de moments clés comme ça, ça m'a vraiment... Ouais. Malheureusement, c'est comme ça.
Alors, il prend 4 matchs parce qu'il a touché l'arbitre. Hein. Faut quand même
l'arbitre assistant.
Mais c'est vrai, quand il dit il a reconnu l'erreur, mais il n'a pas reconnu qu'ils nous ont volé la victoire. Non, mais ce scénario pour Nantes, il est abominable.
Il a aussi expulsé l'entraîneur adjoint sur la fin. C'est-à-dire que ça a mis le feu, j'étais au stade, ça a mis le feu cette faute, ça a mis 8 minutes pour savoir à 5 mecs si le contrôle après la faute était bon ou pas bon et s'il y avait but ou pas but, ou en tout cas occasion de but. Ce qui fait qu'il y a eu 9 minutes d'arrêt de jeu et dans ces 9 minutes-là, le club prend un but. Tu joues à 10, tu prends un but parce que tu as expulsé un mec, après il avoue s'être trompé. Enfin, il y a de quoi être scandalisé pour le club. Je suis désolé, mais on peut rire de beaucoup de choses et notamment des prises de position et parfois. Mais là, je comprends Vaïd, je comprends le peuple nantais, je comprends le président qui soit remonté comme une pendule parce que si tu perds pas ces deux points là à domicile, ça te laisse encore un peu d'espoir. Là, tu te dis que tout est contre nous. C'est quand même du rarement vu que ce club, que un arbitre se dise finalement je me suis trompé après le match, sachant que dans la période de prise de décision, il y a eu un laps de temps de jeu supplémentaire et que c'est dans ce temps de jeu-là qu'on a pris un but. Alors après, on prend un but par un défenseur central qui est libre de ton marquage. C'est autre chose. Mais normalement, tu n'aurais pas dû, si tu suis la logique, tu n'aurais pas dû jouer ce temps de jeu-là si l'arbitre avait pris la bonne décision.
Non, mais c'est catastrophique parce que tu te rends compte que même avec la VAR, on n'y arrive pas. Il y a toujours des histoires. Il y a toujours des équipes qui se sentent lésées. Alors bon, oui, ça a dû apporter un petit peu, mais je reste toujours. Ça m'a toujours pas convaincu, quoi. Voilà, on a fait le débat avant cette VAR et on continue à les faire après. C'est
d'ailleurs, vous avez vu hier Lens, le dernier défenseur toulousain, aurait dû prendre
oui,
rouge.
C'est vrai.
Je le comprends
sur le penalty, tu veux dire.
Ben oui, je comprends pas pourquoi la VAR ne.
Alors peut-être qu'il estime que l'occasion de but n'est pas manifeste parce que Thauvin a le ballon un peu derrière, et c'est oui, il rate un peu son contrôle.
Oui, mais la règle veut que ce soit le dernier défenseur qui soit expulsé.
Juste avant le journal moyen, vous avez de nouveau l'occasion de tenter votre chance pour l'expérience RMC demi-finale aller de Ligue des Champions PSG Bayern. Vous avez 5 minutes pour envoyer PSG par SMS au 7-32-16. Le journal moyen tout de suite et ensuite son débat de l'Olympique de Marseille à 17h.
RMC jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Pierre Dorian.
Il est 16h49 sur RMC, c'est l'heure du journal moyen, deuxième édition, Morgane Maury.
Au sommaire de ce journal moyen, on a changé Sarah Pitkowski, la rouquine carmélite est-elle devenue la coquine carmélite? Nous réviserons ensuite notre histoire avec notre Stéphane Bern Normand et dans 8 minutes, la première question du Kikadi sera posée par un homme plus tendu que la situation au Détroit d'Ormuz, Fraise de Pouillet, alias Fleufleu. Journal moyen, deuxième édition, numéro 2627, c'est parti.
Direct live en plein milieu de la rédaction d'RMC. Toutes les infos que vous n'avez toujours pas entendues sont dans le journal moyen. Deuxième édition.
Les GG du sport samedi et dimanche, 9h, 12h avec un jeu. Les jeux du sport qui terminent chaque émission et chaque week-end. Denis, maintenant, envoie ses meilleurs disciples pour le 32-16 pour répondre aux questions des auditeurs qui ont les mêmes maladies que Denis.
La maladie là.
Quel international français en foot s'est blessé gravement cette semaine avant la Coupe du Monde?
C'est Étiqué.
Comment t'as dit Florian?
Étiqué, il a dit.
Équipe Tiquet, c'est ça, c'est bon.
Deuxième était bonne, la première un peu laborieuse.
Beaucoup de cas dans la première.
Nouvelle question.
Quelle judokate française était en lice pour gagner un sixième titre européen aujourd'hui, mais a été éliminée ce matin?
Voilà, plus le nom.
Il y a un petit refus d'obstacle. La réponse c'est Romain Dico, mais l'auditeur pense à quelqu'un d'autre. Sa réponse.
Quelle judokate française était en lice pour gagner un sixième titre européen aujourd'hui, mais a été éliminée ce matin?
Voilà, plus le nom.
Baguenou? Non, pas du tout, ça c'est
Baguenou.
C'était Romain Dico.
Armageddon.
Agrenez-nous.
Denis, Clarisse.
Non, mais t'arrêtes. Si, quand même. Arrête, moi, je ne suis pas concentré là.
Mais justement.
Oh non, Clarisse. Agbadenou.
Comment
y a... C'est des E, il n'y a pas d'autre A.
Agbadenou.
Agbenienou.
Agbenienou.
Oui. Voilà,
c'est pas si dur, hein.
Allez.
Et oui, quand tu répètes ça.
Moi, allez, je te lâche, Denis. L'instant coquin.
RMC. La haie, l'amour et vous. Brigitte La haie.
Alors, Sarah Pitkowski a distillé quelques messages hier. Comme ce moment lorsqu'Eric nous parlait de ce short révolutionnaire pour éviter les mains dans la surface de réparation.
Il a inventé un short avec, qui te permet de t'entraîner en ayant les mains toujours collées quand tu défends. Donc pour régler le problème des mains dans la surface.
Un short qui te permet d'avoir les mains collées.
Ah. Oui, c'est-à-dire ça a des, il a des.
Le mec a inventé un short. Alors, avec des poings.
Non, parce que tu sais, avec une paire de menottes, on s'en sort aussi.
Non, mais je vais te dire un truc. En plus.
Si, ça. T'as vu, ça a déstabilisé Vincent.
Oui, oui.
Message caché peut-être de Sarah. De partir en pub.
Allez, dans un instant, sans Vitinha, le PSG est-il aussi fort ? Vincent Moscato règle le problème sur RMC.
Ouais, Sarah, tu rejoins ton bateau là ? Hein ?
Oui, je vais monter au mât.
Oh la coquille !
Aïe, aïe, aïe.
On a connu Vincent avec plus de réparties.
Ouais. Oui, là,
oui, 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 là, mais là,
la
chute de poids.
Pas l'habitude que ça aille.
Il devait rougir, non ?
Service après-vente du Kikadi. Alors, cette semaine, c'est le grand Fleu-Fleu qui est aux manettes. Un Kikadi sans rature, bien sûr, comme avec cette charade.
On va casser les codes, on va commencer par une charade.
Oh, ok. Ah oui, ça, c'est
il y en aura deux aujourd'hui.
Sûrement, ça.
Deux charades, oui.
Prénom et nom. Louis XIV s'est fait arrêter à mon premier.
Ouais.
Mon deuxième est un bateau à rames. Mon troisième peut être d'olive
Warren
ou de tournesol.
Alors, il y a un petit problème sur cette charade. La réponse.
Warren Zahir Emery, non ?
L'huile. Mon Louis XIV s'est fait arrêter à mon premier.
Je sais pas.
Mon
Warren
deuxième.
Barguil.
Warren Barguil. Oh. Louis XIV s'est fait arrêter à mon premier à Varennes.
Ouais, non. C'est pas Louis XIV, c'est Louis XVI.
Ça déconne, mais c'est grave quand même, non ?
Ce qui est encore plus grave, c'est que nous, on cherchait comme des idiots. Et
mais oui,
plus,
non, mais bon, non, mais sauf que nous. On avait compris que c'était Varenne, mais c'est lui quand même. Les gens, il y a des jeunes qui nous écoutent. C'est les vacances scolaires quand même.
Oui, c'est vrai. Après on va dire le niveau baisse, les Fred.
Fred, il y avait un très beau message à délivrer aussi pendant le Kikadi.
It is Augenblick, Augenblickdem, Dap Vitinia. Vorf Wolf
c'est comment il s'appelle
Spidel and
mais non,
Niet
mais non,
as
c'est
Martinez as Goodke
du Portugal
Speller
compagnie. Ah Vincent Compagnie
Yerd
Kane
non, ben, Beshwood.
Alors hommage aux gens qui écoutaient le Moscato Show, le Super Moscato Show pour la première fois. Fred parlait en néerlandais à cette occasion.
On n'avait pas reconnu. Hein. Vous avez remarqué quand même que c'était difficile. Hein. Mais... même Jérôme qui pourtant côtoie des néerlandais dans le vélo, t'avais pas suivi.
C'est un autre dialecte encore. Il y a beaucoup de dialectes aux Pays-Bas, mais là c'en a un autre.
On a 30 secondes pour parler de la Coupe de France. Hier, le Racing Club de Lens est qualifié pour la finale. Succès face au TFC, face à Toulouse sur place, France Télévisions. À la mi-temps, le journaliste Arnaud Matteoli va interviewer le Toulousain Caceres, joueur du TFC. Petit problème de prénom.
Martin Caceres. Martin, comment analyser ?
Cristian Cáceres.
Cristian.
En espagnol ?
Sí, Cristian Cáceres, no Martín.
Martín, lo siento. Comment analyser ce premier ?
C'est pas Martín, c'était l'ancien joueur de la Juve, c'est Cristian.
Non mais cette séquence, elle est terrible d'abord parce que Cristian Cáceres, bon, il a l'air quand même assez saoulé.
Et c'est flatteur pour lui. Dans l'autre sens,
il est tellement déstabilisé, il lui pose sa question, ensuite il le laisse filer. Il n'y a pas de relance. 15 secondes et merci, plié, au revoir.
C'est la musique du Kikadi ?
C'est la musique du Kikadi.
Voilà, cette musique avec Fleu-Fleu me fait trembler, je te jure.
Bonjour Frédéric.
On dirait la musique de l'exorciste, on dirait.
Donc première question du Kikadi.
Et ce n'est pas Louis XIV. Kikadi, une vidéo circule actuellement en utilisant mon image, sans mon autorisation,
merci.
Et a été créée à l'aide de l'IA.
Oui, alors ça on l'a vu, mais on ne s'en souvient pas.
Oui,
on l'a vu, mais on s'en souvient pas.
8 Ligues des Champions.
8 Ligues des Champions ?
8 Ligues des Champions, Karabatic.
8 Ligues des Champions.
Karabatic. Qui ça peut être Omeyer.
C'est du foot.
C'est du foot.
Foot 8 Ligue des Champions.
C'est pas possible.
Messi,
Ancelotti. Né en France.
Né en France, mais
18 fois champion de France.
8 Ligue des Champions.
Mais c'est pas un football.
Non, si, c'est un football.
Si, si, je vois qui c'est. Mais j'ai un trou.
Ligue des Champions.
Initiale ?
Initiale, oui.
Mais oui, c'est.
Wendy Renard.
Wendy Renard.
Ah, oh, évidemment. Oui. Le premier point donc du Kikadi pour gagner une semaine de vacances dans un camping Tikayan. Vous envoyez Kikadi par SMS au 732-16. Dans un instant, l'interview exclusive de Facundo Medina qui prend la parole au nom du groupe peut-être. En tout cas, on va l'entendre dans un instant. C'est tout frais hein, puisque Florent Germain vient de le faire. La question est la suivante. Croyez-vous à une révolte des joueurs à l'OM? 32-16. À tout de suite.